la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre condensé d'actu business du jour. Si vous êtes prêts à démarrer, mais en douceur, c'est promis, allons-y. Nous sommes jeudi 10 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
Ce matin, au programme de votre podcast, il y aura un retour sur les midterms aux États-Unis. Je vous parlerai ensuite d'Air Belgium, qui se retrouve en difficulté financière. Puis je vous exposerai une idée qui pourrait rendre du pouvoir d'achat à pas mal de ménages. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez Le Brief.
Le Brief, cette info dès 7h.
On commence d'abord avec cette info pour le moins surprenante. Philippe Darsienne se retrouve bombardé CEO ad intérim de Bipost. Arrivé dans l'entreprise au printemps dernier, le Liégeois remplace Henri de Romeray après 2 semaines seulement. Bipost qui enregistre un chiffre d'affaires en augmentation de 4,5% sur un an. Retour aux États-Unis maintenant. Ce qui est sûr, aujourd'hui, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est que Joe Biden a limité la casse avec les démocrates aux élections de mi-mandat. Car certains prédisaient une vague républicaine et ça n'a pas été le cas. Bon, la Chambre des représentants pourrait en effet repasser dans le camp conservateur, mais pour le Sénat, c'est un peu plus compliqué parce que le dépouillement continue et qu'on ne connaîtra le verdict que dans quelques jours, voire dans quelques semaines en cas de contestation. Le président est donc remis en selle, mais il est affaibli. Pourra-t-il mener aussi facilement sa politique? Pas sûr. Les démocrates ont pourtant communiqué sur des thèmes très forts. Serge Quadbach, vous nous expliquez lesquels dans l'édito du jour.
Ils ont privilégié le spectre de la menace contre la démocratie et les droits sociaux. Et certains gros gradés démocrates, en voyant les sondages, se sont dit est-ce que c'était finalement la bonne tactique ? Parce que en fait, les Américains, ils ont un sujet de conversation, c'est l'inflation et le pouvoir d'achat. Et on le voit, en fait, le pari, finalement, il était risqué, mais il est gagné, en tout cas partiellement. Donc le raz-de-marée républicain n'a pas eu lieu. Donc oui, les Américains, pour eux, la démocratie, ça reste quelque chose d'important, ça a eu un pouvoir mobilisateur, donc c'est assez encourageant de voir ça. Maintenant, je vais parler du verre à moitié vide parce que effectivement, les risques sont quand même très très importants. Selon certaines projections, on voit plus de 140 candidats trumpistes qui rejettent la victoire de Joe Biden en 2020. Plus de 140 de ces candidats ont été élus. Et en plus, ce réveil démocratique n'est finalement celui que d'une Amérique contre une autre. La nation est toujours déchirée. Il faut juste voir maintenant si ce bélan démocratique va tenir les 2 prochaines années déterminantes jusqu'à la prochaine échéance, c'est-à-dire les élections présidentielles de 2024.
De l'Europe à présent et d'une réforme de son cadre budgétaire. L'objectif des propositions détaillées hier par la Commission est de rendre les règles plus claires et plus lisibles. L'exécutif européen promet ainsi du sur-mesure pour chaque État membre car certaines exigences sont devenues inapplicables. Prenons l'exemple de l'Italie et de sa dette faramineuse qui atteint 150% de son produit intérieur brut. Bon, pour bien faire, elle devrait essayer de mettre un terme à ce dérapage à une vitesse folle. Mais si elle faisait ça, ce qui est de toute manière quasi impossible, elle provoquerait une violente récession qui elle-même alimenterait la dette. Vous voyez où je veux en venir, hein, c'est un cercle vicieux. La Commission européenne veut donc aménager le pacte de stabilité actuel. Ce qu'elle suggère, c'est que les pays en difficulté aient la possibilité d'actionner un mécanisme d'urgence d'arrêt de leur trajectoire de désendettement dans certaines situations exceptionnelles. Elle écarte aussi l'idée d'un traitement de faveur pour les investissements dans la transition verte. Mais attention, la Commission refuse de toucher à l'objectif de ramener l'endettement public à 60% et limiter le déficit budgétaire à 3% du PIB. Là, elle ne bougera pas d'un poil. Je vais maintenant vous parler d'une idée toute simple qui pourrait redonner du pouvoir d'achat à de nombreux ménages. Et c'est curieux que cette idée n'ait pas encore été avancée d'ailleurs, celle d'augmenter la valeur faciale des chèques repas en les faisant passer de 8 à 12 euros. La proposition, elle vient de Bruno Colman, qui est un économiste. Le groupe de conseil Roland Berger, dont il est associé, a mené une étude pour le compte d'une association qui représente les fournisseurs de chèques repas Sodexo, Edenred et Monize. En quoi cette mesure pourrait-elle vraiment changer les choses? Nous avons posé la question, eh bien, à Bruno Colman.
Nous vivons maintenant une inflation alimentaire qui conduit beaucoup de ménages à devoir diminuer ou bien la quantité ou bien la qualité de leurs achats alimentaires quotidiennement. Et les chèques repas sont une façon d'orienter de manière positive la consommation en aidant le pouvoir d'achat. On aide tout le monde, en fait. D'abord, on aide l'entreprise qui peut donner un avantage complémentaire aux travailleurs. On aide le travailleur qui bénéficie d'un support qui, d'ailleurs, subit une très faible taxation. Et effectivement, on génère un courant d'affaires dans tout l'écosystème de la consommation et de la distribution. Parce qu'il ne faut pas oublier, et on le sait maintenant, que beaucoup de personnes confrontées au choc d'inflation en Belgique vont faire leurs courses à l'étranger, notamment en France. Et donc, les tickets repas et les chèques repas ne pouvant être utilisés qu'en Belgique, mais c'est une façon de canaliser cette consommation vers le produit intérieur brut sans le voir partir à l'étranger.
D'accord, mais pour ceux qui ne bénéficient pas des chèques repas?
Effectivement, il faut éviter d'avoir une dissociation, une fracture dans les bénéficiaires et donc on pourrait imaginer de l'étendre. Alors c'est certain que si on l'étendait aux fonctionnaires, voire aux militaires, ce serait un coût additionnel, mais en même temps, nous vivons une situation très particulière puisqu'on sait que le prix de certains aliments de base, comme les pâtes par exemple, ont augmenté de 35%, donc c'est un tiers d'augmentation, c'est gigantesque. Donc, au-delà simplement de la scission de la population, je crois qu'on doit considérer une extension du système à toute une série de personnes.
De grosses difficultés financières frappent à nouveau Air Belgium. Selon la chaîne d'information LN24, la compagnie aérienne aux 9 avions et aux 500 employés a besoin de 10 millions d'euros pour finir l'année. Et pour cela, tout le monde doit mettre la main à la poche. L'actionnaire chinois Hong Yuan, mais aussi les Belges Sogepa, SRIW et SFPI, car sinon ils pourraient devenir minoritaires et Air Belgium perdrait sa licence de vol belge. Le problème, c'est que ces derniers sont plutôt réticents. Cela va-t-il sceller le sort de la compagnie? En début de semaine, en tout cas, Air Belgium annonçait déjà la fin de ses vols vers les Antilles. Selon des sources syndicales, certains pilotes partent déjà vers d'autres cieux. KBC, baisse sur les marchés.
What?
Oui, ça peut interpeller, surtout lorsqu'on sait que la banque a présenté de bons résultats hier au troisième trimestre. Et pourtant, l'action a essuyé un revers de moins 6,3% en soirée à la clôture de la Bourse de Bruxelles. Philippe Gallois, un de nos spécialistes des marchés financiers, nous explique pourquoi les investisseurs sanctionnent KBC.
Si on regarde par rapport à ce que d'autres banques ont publié récemment pour leur troisième trimestre, et là on constate que KBC est un peu à la traîne, et même assez nettement hein, par rapport à ce qu'on appelle les revenus nets d'intérêt, c'est-à-dire la différence entre ce que KBC gagne sur les prêts qu'elle accorde et ce qu'elle dépense pour rémunérer les dépôts des clients. Là, on constate que les revenus nets d'intérêt n'ont augmenté que d'environ 17%, alors que dans d'autres institutions financières comme Commerzbank ou Deutsche Bank, la hausse a été beaucoup plus impressionnante sur un an, c'est de 30 à 40%. Donc voilà, il y a une sorte de déception dans les rangs des investisseurs par rapport à cette différence entre KBC et ses concurrents.
Et malgré tout cela, KBC maintient ses prévisions de résultats. Deux énormes plans de licenciement en moins d'une semaine. Que se passe-t-il chez Twitter et Meta, les principaux acteurs américains des réseaux sociaux, pour tout balayer comme ça? La moitié des employés, 3750, ont été remerciés au sein de la nouvelle acquisition d'Elon Musk, tandis que dans la maison mère de Facebook, 11 000 personnes vont devoir partir, soit 13% des effectifs. Comme ça, paf! Bon, on sait évidemment que le modèle économique de ces deux entreprises ne se porte pas bien avec la baisse des budgets publicitaires, mais de là à y aller aussi radicalement, est-ce qu'il y aurait un changement de stratégie dans l'air? Réponse de Arnaud Martin, un de nos experts des géants du web.
Parmi les explications données par Mark Zuckerberg lui-même, on voit en fait entre les lignes qu'il s'est sans doute un peu emballé suite aux belles performances que Meta a pu réaliser depuis la pandémie. En septembre 2022, par rapport à la même période l'année dernière, il y avait une hausse de 28% du personnel. Ce qui veut donc dire que, au niveau des employés, il y aura encore toujours plus d'employés qu'à la même époque l'année dernière. Le retour à la normale s'est aussi un peu traduit au niveau des activités sur le web avec effectivement des retours d'avant Covid. Et puis, Meta doit aussi faire avec une concurrence plus accrue. Donc là, on pense notamment à TikTok, dont la concurrence est de plus en plus féroce. Donc tous ces éléments ont fait que voilà, les choses se passent peut-être pas aussi bien que ce que l'aurait anticipé Zuckerberg, qui doit donc agir en conséquence.
Plus qu'un podcast, c'est aussi une véritable communauté. Rejoignez d'ailleurs le groupe des auditeurs de Tracker sur Facebook, la série qui s'intéresse depuis 3 saisons aux nouveaux investisseurs. Cette semaine, dans ce 25e épisode, vous aurez rendez-vous avec Ludovic, un addict des réseaux sociaux. Il dispense ses conseils sur Internet, sur de nombreux forums et touche ainsi des milliers d'investisseurs. Il se fait d'ailleurs appeler « Belgian Investor ». Ludovic, c'est aussi un homme qui n'a pas peur de perdre de l'argent. Prendre des risques, ça lui est déjà arrivé. Il nous raconte comment.
J'avais pris une partie de mon capital, le portefeuille trading, quoi, le court terme. Et hop, j'avais mis ça, hop, all-in, je vais dire presque, dans un produit effet de levier, en disant, ben voilà, le Nasdaq, il va exploser. Ben non. Malheureusement, le truc, il est parti dans l'autre sens. Et là, quand tu es devant ton PC et que tu n'es pas un vrai professionnel de la finance et que tu n'as pas la fibre optique qui va de ton bureau à Wall Street, t'as beau appuyer sur le bouton vente, il n'y a rien qui se passe.
Et en euros, ça représente quoi cette erreur pour toi?
En perte, tu perds 5000 euros en une heure quand même pas. Là, tu te dis, merde.
Pour écouter l'intégralité de l'interview de Ludovic menée par Salim Nesba, rendez-vous sur notre site, notre application ou toutes vos plateformes d'écoute de podcasts favorites. Le lien est sur les notes de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté notre podcast. Demain, exceptionnellement, il n'y aura pas de brief, mais nous vous retrouvons très bientôt. Dès lundi, et Guillaume Cordeau recevra Pierre Rillon, le président du Nouvel Invest Wallon. Passez un excellent week-end et n'oubliez pas, déconnectez. À bientôt.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.